Maxime Aurel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Odeur pestilentielle, crasse accumulée, matelas jamais désinfectés. Les cellules de garde à vue sont totalement indignes, selon la contrôleure des lieux de privation de liberté. Et cela interpelle en pleine crise sanitaire. Dominique Simonneau publie ses recommandations au gouvernement. Le détail dans ce journal. Quand la crise diplomatique devient aussi politique, l'affaire des sous-marins australiens s'invite dans la campagne présidentielle. Plusieurs candidats réclament la sortie de l'OTAN. Dans ce journal aussi, où en est la protection des sites Seveso en France 20 ans après AZF? Jean Castex en Seine-Saint-Denis pour entériner la renationalisation du RSA, on vous expliquera. Et le nouveau trimaran de François Gabart, un concentré de nouvelles technologies.
Au micro de Léa Salamé, à 7h50, c'est aujourd'hui le député européen La République En Marche, conseiller politique du président de la République, j'ai nommé Stéphane Séjourné.
France Inter.
Dominique Simonneau dénonce des conditions d'accueil inadmissibles, encore plus en temps de Covid.
La contrôleure générale des lieux de privation de liberté a inspecté les locaux de garde à vue dans plusieurs commissariats français. Elle en tire un rapport au Vitriol ce matin avec 6 recommandations pour le gouvernement. Promiscuité, saleté innommable, hygiène déplorable. C'est d'autant plus problématique, Ariane Grissel, en pleine crise sanitaire.
La contrôleure a visité 17 commissariats dans toute la France. Pour 15 d'entre eux, Dominique Simonneau dresse un constat accablant. C'est notamment le cas de celui de Calais.
Il y avait une odeur, mais à tomber raide, parce que la chasse d'eau était bouchée. Il y avait normalement un robinet pour donner de l'eau aux gens. Il coulait goutte à goutte. Il y avait 3 hommes là-dedans, dont 2 portaient pas le masque. Les policiers eux-mêmes avaient honte. Ils nous ont dit, mais dites dans quoi nous aussi on est obligés de vivre.
Dans plusieurs commissariats, les gardes à vue se passent la même couverture pendant des semaines, sans parler des nombreuses autres lacunes en termes d'hygiène relevées par Dominique Simonneau.
Pas d'eau, pas de savon, c'est de la bonne volonté du policier. On donne pas de gel aux gardés à vue parce que soi-disant ils le boivent. Ces gens-là, ils vont sortir. Certains vont aller vers un tribunal. D'autres vont être relâchés parmi nous tous.
Un problème de santé publique donc pour la contrôleure des lieux de privation de liberté. Elle recommande notamment un accès facilité aux sanitaires pour les gardés à vue ou un nettoyage plus fréquent des cellules. De son côté, le ministère de l'Intérieur souligne qu'il s'agit là de 17 commissariats alors qu'il y en a plus de 600 en France où la dignité des personnes est selon lui largement respectée. Il ajoute qu'un programme de rénovation est en cours. Dominique Simonneau rappelle que certaines des cellules qu'elle a visitées avaient déjà été épinglées par la précédente contrôleure. Pourtant, dit-elle, aucun des travaux promis n'a depuis été entamé.
Ariane Grissel et l'ensemble des recommandations de Dominique Simonneau sont publiées ce matin au journal officiel. Il voulait cibler des musulmans, des personnes noires ou arabes, mais aussi Christophe Castaner ou encore Jean-Luc Mélenchon. 6 anciens membres d'un groupuscule d'ultra-droite baptisé OAS comparaissent à partir d'aujourd'hui à Paris pour association de malfaiteurs terroristes. Cette cellule avait été démantelée en octobre 2017. Selon l'accusation, ses membres entendaient, je cite, « préparer physiquement des combattants dans la perspective d'une guerre raciale », mais l'avocat du chef présumé de cette cellule estime lui que les projets seraient restés à l'état d'ébauche.
Il est 7h33, 2 ans après les promesses, Alexis. Que devient le grand plan de l'État pour la Seine-Saint-Denis?
Une 20aine de mesures dévoilées à l'automne 2019. Jean Castex vient faire un premier bilan de leur mise en œuvre aujourd'hui à Lille-Saint-Denis et à Bobigny. On pense notamment aux effectifs de police supplémentaires ou à cette prime de 10 000 euros pour les fonctionnaires qui s'engagent à rester au moins 5 ans dans le département. Mais le Premier ministre vient surtout signer un engagement important. La renationalisation du versement du RSA en Seine-Saint-Denis dès le 1er janvier 2022. Alors concrètement, ça ne changera rien pour les allocataires, mais ça changera tout pour la collectivité, Claire Chaudière.
La demande était formulée depuis plus de 10 ans, finir avec ce système inégalitaire dans lequel les départements les plus pauvres se sont retrouvés au fil des années, étranglés par le paiement du RSA. Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, salue une victoire historique.
Il nous a fallu des courriers, des interpellations, des manifestations. Mon prédécesseur Claude Barthelone avait voté un budget de révolte. Et donc, c'est effectivement une bonne nouvelle. C'est l'aboutissement d'une longue bataille qui va permettre au département de retrouver des marges, de doubler nos crédits d'insertion en faveur justement de l'accompagnement, de la prise en charge des allocataires du RSA.
Concrètement, les dépenses du département liées au RSA ne dépasseront plus un certain plafond. Tout le reste sera désormais pris en charge par l'État. Jean Castex fera aussi tout à l'heure le bilan des nouvelles primes pour les fonctionnaires installés en Seine-Saint-Denis. Mesure méconnue aux effets encore timides, constate Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois.
On voit que dans le second degré, il reste encore une grande mobilité où on voit une
même année. Beaucoup d'enseignants qui sont arrivés en même temps quitter leur collège et c'est parfois dommage. Un certain nombre de choses sont en route. Maintenant, il faut qu'elles se concrétisent.
Et sans trop tarder, ajoute l'élu, au risque de créer de nouvelles déceptions.
Explication signée Claire Chaudière, service économie et sociale d'Inter. Sortir vraiment du silence, recueillir le plus grand nombre de témoignages. La commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants lance ce matin sa plateforme nationale d'appel téléphonique. Elle est destinée aux adultes victimes de ces abus pendant leur enfance et qui n'auraient jamais osé en parler jusque-là. On y revient en détail dans le journal de 8h. Les sirènes vont résonner à 10h17 à Toulouse, l'heure précise de l'explosion de l'usine AZF il y a 20 ans, le 21 septembre 2001. 31 morts, des milliers de blessés ce jour-là. Ce matin, il est prévu l'inauguration d'un parcours mémoriel, mais certaines associations de victimes boycotteront une nouvelle fois les cérémonies officielles. Depuis la catastrophe, la réglementation des sites Seveso s'est durcie en France. Mais pour les défenseurs de l'environnement, il reste encore beaucoup à faire contre ces risques industriels. Sandy Dauphin, vous vous êtes rendu dans la zone industrielle de Mitry-Compan, c'est en région parisienne près de Roissy.
Un dépôt pétrolier, une usine chimique de fabrication de gaz industriel, des entrepôts de logistique pour de grandes enseignes. La zone industrielle de Mitry-Compan regroupe 6 sites Seveso, dont 2 classés seuil haut. Mireille Lopez siège dans le comité de suivi de la zone en tant que présidente d'une association locale à Dunka.
On a eu peur quand il y a eu AZF, on a eu peur quand il y a eu Lubrizol. Actuellement, il y a à peu près 250 entreprises. Et il y a énormément d'entrepôts logistiques qui sont dangereux puisque c'est l'incendie qui est le plus grave dans ce type d'entrepôt.
Autre sujet de préoccupation pour les associations, le manque d'inspecteurs des services de l'État, d'après Claude Gautra, vice-président de France Nature Environnement Seine-et-Marne.
La zone de Mitry-Compan, de mémoire, il doit y avoir 4 inspecteurs. C'est des gens très compétents, il en faudrait beaucoup plus, puissent faire leur travail correctement.
Dans le village voisin de Compan, le maire Joël Marion relativise.
Moi, je ne me sens pas plus en danger que cela, certainement moins que quand je suis arrivé en 1993 à Compan.
En 2019, les inspecteurs de l'environnement ont mené une vaste opération de contrôle dans la zone industrielle de Mitry-Compan. Bilan, 3 sites étaient en situation irrégulière, 5 autres présentaient des écarts notables avec la réglementation sur les installations classées et sur les produits chimiques.
Reportage Sandy Dauphin dans l'une des plus grandes zones industrielles d'Île-de-France. Le gouvernement l'attendait depuis quasi une semaine, le soutien des Européens dans la crise des sous-marins. Après la présidente de la Commission hier, les ministres des Affaires étrangères des 27 expriment clairement ce matin leur solidarité avec Paris. Ils sont réunis à New York où débute l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais le sujet n'est plus seulement diplomatique, c'est aussi désormais un débat de politique intérieure. Que doit faire la France une fois la colère passée? Anne Souhaitement, plusieurs candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Marine Le Pen, demandent aujourd'hui un départ de l'OTAN.
L'OTAN serait-elle un carcan? Pour une Marine Le Pen en quête d'électeurs gaullistes, la crise des sous-marins en est un nouvel exemple. Membre de l'organisation, la France serait prisonnière de son alliance avec les États-Unis. Il lui faut donc la quitter. Laurent Jacobelli, porte-parole du RN.
Il faut reprendre la main, retrouver une indépendance, il faut retrouver une politique gaullienne des affaires étrangères, c'est-à-dire défendre l'intérêt de la France et oser parfois avoir une voix singulière par rapport à nos partenaires.
Quitter l'OTAN pour se tourner davantage vers la Russie, la Chine ou l'Inde, revoir la politique étrangère de la France. Même credo du côté du communiste Fabien Roussel et de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Bastien Lachaud est membre de la commission défense à l'Assemblée nationale.
Nous devons défendre nos propres intérêts. Nous ne devons pas être les supplétifs des Américains. Nous devons porter fort et haut la voix de la France, un indépendantisme français. Pour cela, nous ne pouvons pas être prisonniers d'une alliance contre nature.
Quitter l'OTAN, y réfléchir, répond plus prudent Xavier Bertrand. Le candidat de droite à la présidentielle appelle, lui, un sommet extraordinaire de l'Alliance Atlantique, quitte à poser ensuite la question de la participation à son commandement. En attendant, parlementaires LR et socialistes réclament une commission d'enquête pour poser une toute autre question: à qui la faute? La France, sa diplomatie, ses renseignements auraient-ils failli?
Explication Anne Souhaitement. Aux États-Unis, la comparaison est marquante. Le Covid a désormais tué plus d'Américains que la grippe espagnole, constate l'université Johns Hopkins qui fait référence sur le sujet. 675 700 morts du Covid outre-Atlantique pour le moment. Le bilan s'était arrêté à 675 000 en 1919 avec la grippe espagnole. Le statu quo au Canada après les élections législatives. Les libéraux de Justin Trudeau sortent vainqueurs, certes, mais ils ne pourront former qu'un gouvernement minoritaire minoritaire. Or, c'était justement pour décrocher la majorité absolue que le Premier ministre sortant avait déclenché ce scrutin. Paris raté, donc.
Il est 7h40 et c'est un bateau taillé pour battre de nouveaux records.
32 mètres de long, 23 de large, un mât de 35 mètres, voilà les mensurations du nouveau trimaran de François Gabart. Le navigateur l'a officiellement baptisé hier à Concarneau, en Bretagne. C'est avec cette nouvelle fusée sur l'eau qu'il va bientôt prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Visite guidée en avant-première avec vous, Jérôme Val.
L'oiseau aux ailes de géant est prêt pour son envol. Ce trimaran imposant avec sa couleur bleu capri est à lui seul une prouesse technologique.
Je vais un petit tour au cœur de ce bateau.
Allez, on va descendre.
François Gabart, qui a imaginé ce bateau, a opté pour un parti pris radical. Le pont est dépouillé.
En plus, c'est ce qu'on voit d'une manière très visuelle quand on est sur le bateau comme là nous en ce moment, ou qu'on est sur le ponton. C'est l'aérodynamisme de la plateforme.
Le poste de pilotage du bateau est donc encastré dans la coque centrale.
Le plancher doit être 50-60 cm au-dessus de la ligne de flottaison.
Dans ce cockpit, il n'y a pas de barre, mais un volant beaucoup plus petit.
On peut imaginer de la direction assistée. Vraiment, voilà, essayer d'apporter au pilote automatique justement l'intelligence humaine, ou à l'inverse, avoir l'intelligence d'un pilote automatique avec toutes les notions d'intelligence artificielle qui peuvent intervenir pour aider le barreur, le pilote, à diriger le bateau.
Tout a été pensé pour la performance et donc pour faire voler ce trimaran, et les débuts sont prometteurs. Guillaume Combescure est ingénieur pour l'analyse des données du bateau.
Sur les dernières navigations, on a atteint une vitesse max de 47,7 nœuds, donc pour le coup un peu moins de 90 km/h.
Ce trimaran futuriste devrait faire des étincelles avec déjà plusieurs records autour de la planète en ligne de mire. Concarneau, Jérôme Val, France Inter.
Et rendez-vous donc le 7 novembre prochain au Havre, départ de la Transat Jacques Vabre pour voir ce petit bijou de technologie en conditions réelles.
Merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.